Je vous propose de commencer. Bonjour à tous, merci d'être là. Il est 17h tout juste, donc ça me va. Je suis journaliste radio, donc l'heure, c'est parti. Je m'appelle Philippe Lefébure, je suis journaliste à France Inter. J'assume tous les matins une chronique, l'écho du jour, c'est à 7h48 tous les jours de la semaine. Je vous invite à écouter ça. Nous avons une heure et demie devant nous pour répondre donc à cette question. Peut-on justifier le salaire des traders ? Alors, c'est avec cette crise, la crise financière, qu'on a véritablement découvert qui sont les traders avant la crise, avant la chute de Lehman Brothers, pour faire court. On savait évidemment qu'ils existaient, on savait qu'ils étaient extrêmement bien payés, mais on ne savait pas tout à fait en quoi consistait leur travail. Avec cette crise, on a évidemment appris à les connaître, on a surtout appris à les détester. On les accuse de tous les maux, on les rend responsables d'une grande partie des choses qui nous arrivent. On les trouve vraiment trop payés. On va répondre à cette question aujourd'hui, j'espère. Il faut ajouter qu'avec l'affaire Kerviel, on a finalement mis un visage sur ces traders, même si l'affaire Kerviel, en creux, ne raconte vraiment pas du tout, ou plutôt en creux raconte ce qu'est le monde des traders, mais je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans le sujet. Peut-être qu'on rappellera quand même, et on reparlera de lui tout à l'heure. Dans cette demi-heure, donc, qu'on va passer ensemble, une demi-heure qu'on va construire assez classiquement dans ce genre d'exercice. Je vous propose de laisser 1 heure, 10 minutes chacun, un peu plus, un peu moins à chacun des intervenants. Et puis ensuite, on essaiera d'avoir un maximum de temps pour répondre à vos questions et commencer un jeu de questions-réponses entre les intervenants et vous. Je vous présente donc nos intervenants en faisant dans le sens inverse, dans l'ordre inverse d'apparition à l'écran. Antoine Dautume, c'est vous qui avez organisé, monté cette table ronde, tout mérite vous revient. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. Vous conclurez ce tour de table tout à l'heure avec une vision un peu plus macroéconomique, à quoi sert la finance ? Olivier Gottschaux, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS. Vos travaux, on peut le dire, font référence, précisément dans l'étude de ce monde des traders. Vous avez écrit « Les traders » en 2001, « Working Rich » en 2007. Vous m'avez vous expliqué comment les traders détournent finalement la richesse des banques. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles à dire depuis vos écrits. Eh bien, on vous écoutera tout à l'heure. Diane Segalène, vous avez fondé et vous dirigez « City Partners ». C'est un cabinet de recrutement de dirigeants, d'administrateurs d'entreprises, notamment, et vous agissez notamment, mais pas seulement, dans le secteur de la finance. Vous nous ferez part tout à l'heure de votre expérience de chasseur de tête. Vous voulez être le témoin de ce qui arrive, de ce qui se passe dans ce monde-là. Et puis avec vous, peut-être, on répondra très précisément à la question « Combien gagne un trader français ?» François Meunier, vous êtes économiste, ancien banquier, professeur à l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous êtes l'un des directeurs d'un grand assureur, la COFACE, ancien président de l'Association française des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Vous nous direz pourquoi, selon vous, la rémunération des traders est si élevée. On parlera peut-être avec vous de l'effet Pavarotti. On y revient tout à l'heure. Mais on commence donc avec vous, Antoine Mérieux, à la direction du Trésor. Vous êtes responsable de la mission de contrôle des activités financières. À ce titre, vous travaillez pour le compte du contrôleur des rémunérations des opérateurs de marché, des traders. On est en plein dedans. Pour dire le titre exactement, c'est le contrôleur des rémunérations des opérateurs de marché dans les banques, ayant bénéficié d'un soutien en fonds propres de l'État. Vous coordonnez également la rédaction du rapport moral sur l'argent dans le monde pour le compte de l'Association d'économie financière et vous tenez l'édition 2010 qui sort lundi prochain, je ne me trompe pas.
Absolument.
Alors Antoine Mérieux, on commence donc avec vous, on va parler de cette nouvelle réglementation qu'on a mis en place pendant cette crise. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan et faire surtout des recommandations ? C'est à vous.
Merci. Puisque je suis à Lyon, je voudrais tout de suite dissiper une ambiguïté. Je ne suis pas apparenté à la famille de Mérieux de Lyon. C'est la famille Mérieux de Paris. Elle existe aussi, mais évidemment, elle est un peu plus discrète dans les médias. Donc, je vais aborder effectivement cette question de la rémunération des traders vue un peu du régulateur, puisque, encore une fois, je travaille à la direction du Trésor. Et je participe à la mission CANSU qui a eu la lourde responsabilité de regarder ces sujets de rémunération. Je voudrais très rapidement, dans les 10 petites minutes que nous avons, aborder 4 points. La genèse des normes qui a été mise en place par la communauté internationale, leur contenu, leur mise en œuvre en France et à l'étranger, et enfin, quelques mots sur le dispositif de contrôle français. Alors, la question des rémunérations en général, des traders en particulier, n'était jusqu'ici pas régulée. Enfin, je parle des mandataires sociaux dans un autre registre, mais en tout cas, les traders n'étaient absolument pas régulés. Et c'est la crise financière qui a été un petit peu le déclic. Il y avait déjà une très forte sensibilité sociale, naturellement, au montant parfois un peu extravagant de ces rémunérations. Mais la crise financière a été l'occasion d'une véritable prise de conscience avec trois facteurs qui ont joué. D'abord, les politiques de rémunération ont été considérées comme ayant joué un rôle significatif, je ne dirais pas exclusif bien sûr, mais significatif dans la crise financière en favorisant la prise de risque et la vision court-termiste par les différents acteurs de la finance, avec des bonus qui étaient calculés sur une photographie des résultats du moment, sans du tout prise en compte du dénouement d'un certain nombre d'opérations. On avait un deuxième facteur qui était le sentiment d'une finance amorale avec, comme je l'indiquais, des niveaux de bonus totalement déconnectés de l'économie réelle. Et puis troisièmement, avec les soutiens massifs de la puissance publique à un certain nombre de banques, une très forte incompréhension sur les tenants et aboutissants de ce dispositif. La communauté internationale s'est donc mobilisée. Il faut reconnaître à cette occasion le rôle clé joué par la France. C'est la profession bancaire française qui a la première fois affiché en février 2009 des normes de place, mais les différents G20 ont pris en charge ce chantier et en ont fait une des premières priorités de l'action internationale. On voit que tous les chantiers de réforme prennent du temps. Je dirais qu'on a avancé significativement plus rapidement s'agissant de la rémunération des traders, parce qu'il y a aussi une forte attente de l'opinion publique. Et les deux dates à retenir, c'est le sommet du G20 de Londres, 2009, et surtout, après un travail fait par le Conseil de stabilité financière, le tournant de Pittsburgh en septembre 2009, qui a vu la naissance d'un nouveau corpus de normes internationales régissant donc la rémunération des opérateurs de marché. Alors, quel est le contenu de ces standards ? Il ne faut pas se tromper. Le consensus de la communauté internationale ne s'est pas fait sur une approche de moralisation de ces rémunérations. Il n'est pas du tout dans les gènes anglo-saxons, d'ailleurs. Par contre, on a vu que la crise a donné lieu à un certain nombre de défaillances du contrôle prudentiel, et c'est bien sur ce terrain de l'approche prudentielle que se sont placés les différents gouvernements, avec trois objectifs pour ces nouvelles normes. Limiter les prises de risques excessives, aligner les rémunérations sur la création de valeur à moyen long terme de l'entreprise et éviter aussi que ce niveau excessif des rémunérations, on expliquera tout à l'heure pourquoi, n'obère la capacité de prêter des banques à l'économie, notamment en ponctionnant sur les fonds propres. Donc, trois objectifs. Quel a été le contenu de ces nouvelles règles endossées par le G20 ? D'abord, au niveau du montant des bonus, on a souhaité que les mécanismes de fixation des enveloppes de bonus prennent en compte une véritable appréciation du risque encouru par les opérations et un risque réel de coût en capital, anticipant d'ailleurs dans un certain nombre de cas sur les nouvelles normes qui vont s'imposer dans ce domaine. Parce qu'il faut savoir que les besoins de capitaux, de fonds propres exigés pour les opérations de marché avaient été notoirement sous-évalués dans le cadre de Bâle II. C'est un des chantiers importants de la réforme que de revenir là-dessus. Donc, premier niveau de règles, préciser, donner des règles du jeu pour le montant, pour la fixation des enveloppes de bonus. Deuxièmement, renforcer la gouvernance des rémunérations. Jusqu'ici, il faut bien voir que les bonus étaient essentiellement la responsabilité de la direction des marchés, qui en parlait aux dirigeants, mais ça avait beau souvent représenter pour un certain nombre de, de personnes des rémunérations significativement supérieures à celles des mandataires sociaux, le comité des rémunérations ne voyait rien de ces rémunérations, n'avait pas son mot à dire. Donc là, on remet véritablement dans la boucle les DRH déjà, qui très souvent étaient aussi assez largement court-circuités, sans parler des directions des RIC, mais surtout les comités de rémunération dont on se demande que les membres soient indépendants. Et au-delà des comités de rémunération, les conseils d'administration et les actionnaires. Autre apport des nouvelles règles, une exigence de transparence. Il faut savoir que ces enveloppes de bonus et ces règles de fixation étaient jusqu'ici très confidentielles. Le G20 a souhaité que les banques publient des rapports présentant en quelque sorte les procédures, les montants globaux et les règles du jeu dans ce domaine. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, last but not least, les nouvelles normes du G20 encadrent les bonus sous quatre angles importants différents. D'une part, il impose qu'une partie de ces bonus soit payée de façon différée. Alors, jusqu'ici, la norme de décalage de ces bonus est un peu variable selon les États, n'a pas été fixée totalement, mais bon, disons que c'est une part importante et croissante en fonction du niveau atteint par le bonus. Les bonus, par exemple, supérieurs à 3 ou 4 millions, la norme, c'est qu'une part largement majoritaire de ces bonus soit différée sur une période de 3 ans, parfois plus. Premièrement, et ça c'est important, différer d'une part importante des bonus. Deuxièmement, paiement de cette partie différée en titres ou en instruments apparentés à des titres pour, en quelque sorte, indexer cette rémunération différée sur les performances, alors que ce soit de l'entreprise elle-même, si ce sont des titres, mais aussi éventuellement de ses résultats. Troisièmement, malus ou clawback, il y a une petite ambiguïté sur le terme. Là, effectivement, c'est la notion du fait de dire que les différés vont être véritablement payés avec un certain nombre de conditions. La condition minimaliste, c'est que l'activité ou l'entreprise ait un résultat positif. Mais dans un certain nombre de pays, dont la France, on va plus loin dans ce domaine. Enfin, des règles sur le mercato, c'est-à-dire le marché des traders, est une règle en fait essentielle qui est celle d'interdire des bonus garantis supérieurs à plus d'un an. Alors rapidement, force et faiblesse de ces règles, on évite le moralisme, c'est-à-dire qu'en fait on ne touche pas fondamentalement au niveau de rémunération. Il y a eu un effet de légère modération, mais globalement les niveaux de rémunération qui choquent sont toujours là, simplement ils ne sont pas payés cash comme par le passé. Deuxièmement, ces règles ont une portée juridique à géométrie variable selon les États. Ce sont des standards, ce ne sont pas des rules, et tout dépend de la transposition dans le droit interne qui est faite. Et là, il y a de grosses différences selon les États. Troisièmement, il y a un flou dans l'interprétation internationale de ces bonus, notamment s'agissant du périmètre concerné. Est-ce que c'est simplement les opérateurs de marché ou est-ce qu'on vise de façon beaucoup plus générale les personnes qui mettent un petit peu en risque l'entreprise? À ce moment-là, ça touche la gestion d'actifs, mais ça ne touche pas aussi le secteur non encadré. Je pense par exemple aux hedge funds ou aux fonds de private equity. Et enfin, ces règles ne parlent que de la part variable, bien entendu, et on ne parle pas de la part fixe, il y a pu connaître une augmentation très sensible, comme vous l'avez observé au cours des années précédentes. Alors, mais comment ces dispositions ont été mises en œuvre? Alors, je dirais que la France, sous l'impulsion des pouvoirs publics, a voulu se montrer exemplaire dans ce domaine, d'abord dans la fixation des principes, c'est-à-dire on a été aussi loin que possible dans la définition des normes à respecter. Ça a donné lieu donc à un arrêté du 3 novembre 2009 qui précise le champ de compétences, et c'est-à-dire notamment les professionnels de marché dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de l'entreprise. Ça précise aussi les établissements concernés, établissements de crédit et entreprises d'investissement. Ça rappelle de façon précise aussi les obligations prévues par le G20 en termes de comité de rémunération, contenu des publications. Et vous avez ensuite des normes professionnelles qui précisent un certain nombre de curseurs, notamment les taux de différé, c'est 50% pour la rémunération moyenne, c'est 60% pour les rémunérations les plus élevées, s'agissant du cas français. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans beaucoup d'autres pays, ces règles n'ont pas été appliquées de façon aussi stricte. En Europe, on peut dire pour simplifier que les choses ont été à peu près satisfaisantes, entre guillemets, encore qu'il faudrait rentrer dans les détails. Par contre, il faut voir que ce soit aux États-Unis ou en Asie, les modalités d'application sont restées beaucoup plus floues et il y a eu un certain nombre de dérapages d'un certain nombre de banques qu'on pourrait réévoquer éventuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2009, on a revu des niveaux de bonus à peu près équivalents à ceux d'avant-crise. On a vu dans certains cas des infractions flagrantes, alors je ne parle pas des banques françaises naturellement, mais de banques japonaises et autres, sur les règles de bonus garantie, des augmentations très sensibles de la partie fixe. Et on peut observer que la revue des pairs qui était prévue, la première revue des pairs qui est arrivée en avril 2009 et en avril 2010, est restée quand même très insuffisante par rapport à ce qu'on pouvait espérer. En tout cas, elle n'a pas suffisamment mis en avant, au gré des autorités françaises, le caractère exemplaire des pratiques françaises par rapport aux pratiques d'un certain nombre d'autres pays. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis lors, il y a eu un progrès important avec la directive européenne qui s'aligne en quelque sorte sur l'interprétation française, va même un petit peu plus loin dans certains domaines. Et donc, on sait maintenant qu'au niveau européen, on va avoir un corps de règles à peu près cohérent et assez restrictif. Mais ça laisse entier, évidemment, la problématique de la concurrence dans un certain nombre d'autres pays qui n'appliquent pas ces règles. Dernier point, le dispositif de contrôle spécifique montre que la France a pris très au sérieux ce dispositif. On a d'abord confié une mission particulière au superviseur bancaire. Donc l'autorité de contrôle prudentiel s'est vue reconnaître des pouvoirs étendus. Et par ailleurs, on a nommé, comme on vous l'indiquait, un contrôleur des rémunérations, Michel Cansu, qui analysait les politiques de rémunération des six grandes banques françaises qui avaient reçu l'aide de l'État, en se focalisant notamment sur les 100 premières rémunérations. Alors, la compétence de ce contrôleur des rémunérations est valable jusqu'à la fin de 2010 pour toutes les banques qui ont remboursé totalement l'État, mais pour la BPCE et Dexia qui n'ont pas encore totalement remboursé l'État, cette compétence va se poursuivre l'année prochaine. Alors, ça a été un contrôle ex ante, c'est-à-dire on n'est intervenu pas en regardant les résultats, mais dans le processus même de fixation des bonus, c'est-à-dire au tout début de l'année 2009, avec un pouvoir de recommandation au comité de rémunération et au conseil d'administration, pouvoir qui a été utilisé en liaison très étroite avec l'ACP. Et une intervention qui visait non seulement à une approche notariale de l'application des règles, mais à regarder aussi si l'esprit de ces règles était répliqué. Dernier point. Le travail n'est pas tout à fait terminé. Les pouvoirs publics nous ont demandé de compléter sur un certain nombre de points. Donc, le rapport n'est pas encore public. Par contre, les recommandations, les pouvoirs publics ont souhaité que Michel Cansu leur fasse part de ses premières recommandations, qui ont fait l'objet d'une première publication d'ailleurs dans les échos de la fin du mois de septembre, que le rapport moral sur l'argent dans le monde, qui paraît donc lundi prochain, reprend in extenso, donc si vous le voulez en connaître le contenu précis, vous l'aurez dans ce document. En quelques mots, trois registres pour ces recommandations. D'abord, la consolidation du dispositif existant, poursuite de l'effort de transparence, hein, il faudrait que les informations communiquées par les banques soient cohérentes entre elles, soient suffisamment illustratives pour qu'on puisse faire dans le domaine de la rémunération des traders ce qui a été fait avec succès dans le domaine de la rémunération des mandataires sociaux, où maintenant il y a des présentations standardisées avec les normes AFEP-MEDEF sous le contrôle de l'AMF qui permettent véritablement de voir comment les choses sont prises, sur des choses aussi simples que la rémunération due au titre d'un exercice. Parce que quand une rémunération est payée dans un exercice, vous ne savez pas au titre de quel exercice elle est payée, vous ne savez pas ce dont vous parlez. Donc il y a comme ça des éléments assez précis sur lesquels on a besoin d'une forme de normalisation. S'agissant du renforcement de la gouvernance, on a là aussi considéré qu'il y avait le dispositif actuel était perfectible. Les comités de rémunération n'ont pas encore toujours pris la pleine mesure de leurs responsabilités dans ce domaine. Bon, ça demande une certaine expertise, on demande à des statuts véritablement indépendants des membres. Ça demande de préciser un petit peu aussi la relation avec les actionnaires, hein, les Britanniques. Ont pris l'habitude de voter sur les politiques de rémunération pour les mandataires sociaux. On peut se poser la question de savoir s'ils ne vont pas le faire aussi pour les traders. Il y a eu un rapport Walter qui est sorti récemment, qui est assez ambitieux dans ce domaine. Toujours au registre des dispositifs à renforcer, on s'est interrogé sur le statut fiscal des actions gratuites. On observe qu'un certain nombre de banques n'ont pas utilisé ce vecteur pour les rémunérations différées. Alors, il y a le cas des groupes coopératifs, bon, qui posent un problème particulier parce qu'ils n'ont pas, pour certains d'entre eux, des actions gratuites, mais ils n'ont pas non plus de procédure d'indexation évidente substituable. Et il y a le problème du statut fiscal favorable de ces actions gratuites qui a été dessiné pour l'actionnariat salarié, mais lorsqu'il s'applique à des montants extrêmement importants pour des traders, évidemment, on peut considérer que c'est sans doute peut-être trop favorable. Par ailleurs, il y a des nécessités d'aller encore un petit peu plus loin dans la précision des règles internationales, notamment sur le mode de calcul, la prise en compte des risques, la prise en compte des normes de fonds propres à retenir pour le calcul des fonds propres. Au niveau des suggestions d'évolution du dispositif, on a fait un certain nombre de propositions sur la maîtrise des rémunérations variables, sur les restrictions à la mobilité, parce qu'on met en place des procédures de rémunération différée, mais si on permet aux banques de payer cash les droits à rémunération différée des acteurs sans y ajouter les mêmes conditions que les banques d'origine avaient mis à ces rémunérations différées, on n'a naturellement réglé aucun problème. On pense aussi que les procédures de sign-ons sont souvent des bonus garantis cachés, et donc il y aurait matière aussi à réglementer dans ce domaine un peu plus. On pense aussi que le cadre dans lequel doivent s'appliquer ces normes doit être élargi, parce qu'on voit bien tous les risques de contournement, de détournement quand on sort du secteur bancaire. On a enfin abordé la problématique de la suite du contrôle, et là il est clair que l'ACP doit jouer, l'autorité de contrôle prudentiel doit jouer un rôle renforcé. La nouvelle loi sur la réglementation bancaire prévoit d'ailleurs expressément, et on l'avait suggéré, ce rôle renforcé. Donc voilà en quelques mots l'essentiel de nos propositions. Je voudrais terminer juste par un tout petit mot. On n'a pas le sentiment d'avoir réglé le problème des traders, bien entendu, dans le cadre de cet exercice. On a regardé comment les banques globalement françaises appliquaient de façon satisfaisante ce dispositif. On voit bien que la problématique de ces niveaux de rémunération, et on va en parler tout de suite, c'est avant tout la profitabilité excessive d'un certain nombre d'opérations, et tant qu'on ne sera pas attaqué à ce problème, on le fait en partie avec les normes de fonds propres, avec la réglementation des dérivés, avec la taxation, mais tant qu'on ne sera pas véritablement attaqué à ce problème, on aura toujours des très fortes rémunérations. Merci.
Merci Antoine Mérieux. Je note que la réglementation n'a pas cherché à moraliser le système, c'est ce que vous avez dit. Hein.
Absolument.
On ne tirera pas de vous un premier bilan du travail du contrôleur des rémunérations. On ne pourra pas savoir si elles sont restées, si elles ont augmenté.
Écoutez, je crois que c'est Michel Cantsu, le contrôleur des rémunérations, qui sera le mieux placé le moment venu pour vous faire cette présentation.
Bon, je vous reposerai la question tout à l'heure, on tentera quand même. François Meunier, c'est à vous. Je retiens des titres que j'ai donnés vous concernant tout à l'heure. Économiste, ancien banquier, assureur aujourd'hui, ancien directeur financier. Avec vous, on va essayer de voir pourquoi, selon vous, les rémunérations sont si élevées dans ce milieu, sont si élevées pour les traders. C'est à vous, François Meunier.
Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, des faits d'abord. La banque la plus prestigieuse, elle s'appelle Goldman Sachs, une banque américaine. Et elle paye des salaires et bonus. Le salaire moyen de la banque, 700 000 euros. 29 000 personnes, ça, c'est l'ouvreur de porte, le gars qui gère les lustreuses du parking, tout, moyen, 700 000 euros. Bon. Aux États-Unis, en 1976, le 1% des gens qui ont le revenu le plus élevé, pas le patrimoine le plus élevé, revenu le plus élevé, 1%, et on estime qu'en gros Wall Street, j'entends par Wall Street pas uniquement les traders, j'élargis mon propos à toute la banque d'investissement qui s'occupe du trading, mais aussi la banque d'investissement qui s'occupe des relations avec les entreprises, ou même les avocats ou les gestionnaires d'actifs, etc. Wall Street, au sens large, représente en gros un quart du 1% les plus riches aux États-Unis. Alors, en 76, il ne représentait pas un quart, on va voir pourquoi, mais le 1% les plus riches faisait 9% du PIB, c'est-à-dire du revenu national du pays. En 2005, ce même 1%, si on avait le temps, on ferait une devinette, c'est 24% du revenu national brut. La création de richesses, de revenus entre 1976 et 2005 a été au 4/5 vers ce 1%, 1/5 à tout le reste de la population. 4/5 ou 1% tout au sommet. C'est un phénomène moindre en Europe, moindre en France. Là, c'est le domaine de Diane Segalen. L'homme le plus payé avant la crise financière, c'était non pas un artiste, c'était un grand sportif. Mais les grands artistes, bon, c'était Thierry Henry, 13 millions d'euros. Eh bien, il y avait, c'était moins connu, des salariés, dans le cadre d'une relation salariale normale, qui touchaient plus, dans des banques françaises, plus que 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est 400 années de salaire d'un professeur du secondaire qui a 20 ans d'expérience. C'est sur le site de l'éducation nationale. C'est le salaire maximum d'ailleurs. Ils ont tort de mettre sur le site ce qu'un professeur va toucher dans 20 ans s'il se comporte au mieux. 400 années. Alors, face à cela, le rôle de l'économie, c'est de comprendre comment c'est possible. C'est rationnel. Il y a bien... Comment se fait-il que dans le cadre d'une relation contractuelle normale salarié-employeur, on puisse avoir ce niveau de rémunération? J'ai tenté de regarder toute la littérature à ce sujet. Il n'y a pas grand-chose. C'est un domaine très récent. Il y a quand même quelques économistes qui s'y sont mis. En gros, il y a trois types d'explications, et je ne veux pas être trop long, juste peut-être laisser ça à la discussion. Explication numéro 1. C'est un métier très compliqué, exigeant beaucoup de talent et avec des effets de levier particuliers. Ce que vous désignez par effet Pavarotti, qui peut s'appliquer dans le domaine du salariat. Explication numéro 2, dans la relation entre le salarié et l'actionnaire, le salarié peut être en situation de force et capter toute la valeur ajoutée à lui. Deuxième type d'explication. Troisième type d'explication, c'est au fond, actionnaire et salarié sont de pair, en collusion et arrive à extraire des marges extrêmement importantes sur le reste de l'économie, c'est-à-dire les banques ou le secteur financier s'est hypertrophié face au reste de l'économie, donc capte une valeur ajoutée et il se le partage élégamment entre les deux. Donc il y a ces trois explications. Alors l'explication numéro 1, ça marche, effectivement, on a regardé ça sur les artistes ou les grands sportifs, mais ça marche aussi, prenez un chirurgien. Imaginez un chirurgien qui a 10% de chance, uniquement 10% de chance de mieux réussir l'opération qu'un autre. Très franchement, est-ce que vous allez le payer simplement 10% de plus? Non, vous allez le payer 300%, 3 fois, 5 fois plus. Vous voulez être sécurité. Et donc la demande va s'adresser évidemment au chirurgien le meilleur, même s'il n'est meilleur que marginalement. Donc il y a un phénomène qui trouble le jeu économique traditionnel, c'est la prime au gagnant. Le gagnant, même marginalement, ramasse la mise. Pavarotti, meilleur chanteur marginalement, supposons-le, a cet effet de notoriété qui fait qu'il ramasse la mise. C'était avant Internet et les déchargements gratuits de musique. Est-ce que cette explication qui a été utilisée pour expliquer par des bons économistes pour expliquer pourquoi les salaires des PDG sont d'autant plus grands que la boîte est importante. Et c'est un peu le même mécanisme. Et de fait, il y a un marché du travail du PDG où on va piquer la star Et la star fait immédiatement monter le cours de bourse de la boîte de telle sorte que son salaire, même extravagant, est payé 10 fois. Bon. Est-ce que ça s'applique au monde des traders et de la banque d'investissement ? Oui, il vaut mieux un bon trader que 10 traders médiocres et que 100 traders mauvais. Donc il y a bien ce phénomène-là qui peut être accru par des effets de levier naturels, qui est qu'un trader aujourd'hui fonctionne avec les fonds propres de la banque, internationalement, avec les moyens de communication modernes, peut intervenir, etc. Donc il y a ce phénomène-là. Simplement, c'est un peu insuffisant. Il y a un remarquable économiste qui s'appelle Philippon qui a fait ce constat simple, il fallait le faire, qui était, mais au fond, si cette prime due au talent, et entre nous, autour de cette table, je crois qu'on est tous à dire que la finance est indispensable au fonctionnement de l'économie, mais s'il y a eu cette prime aux gagnants, comment se fait-il qu'il y a 30 ans, 20 ans même, un bon banquier gagner autant qu'un très bon ingénieur en aéronautique ou qu'un très bon chercheur en pharmacie. Au fond, c'est depuis 20-30 ans qu'il y a eu cette explosion du revenu. Et d'ailleurs, Philippon a noté qu'au fond, il y a eu le même phénomène de bulle sur les salaires de la finance pile en 1927, 28, 29, boum. C'est-à-dire que toutes les périodes de boom financier sont des périodes où les salaires des banquiers eux-mêmes booment. Et par contre, les périodes de répression financière, comme il y en a eu avant-guerre, le New Deal et l'après-guerre, notamment en Europe, sont des salaires où on calme les salaires de la finance. Donc on est mal à l'aise avec cette explication, mais elle est là et elle a un semblant, une partie de vérité. Deuxième type d'explication, c'est, au fond, le rapport de force fait que le salarié arrive à piquer la valeur ajoutée. Et dans la relation bancaire, est-ce que ceci peut se passer ? Alors là, je ne vais pas trop parler parce que c'est le domaine où Olivier Gauthier a fait des remarquables études et je me suis simplement repris ce qu'il a dit. Oui, ça existe, ce rapport de force, quand un groupe de traders ou un groupe de banquiers d'affaires ou d'avocats d'affaires de très bon niveau, au fond, le capital, c'est un capital intellectuel. D'autant que c'est couplé à une période, bas taux d'intérêt, etc., où le capital financier, parce que dans une banque, le capital n'est pas des machines, c'est la liquidité, était extraordinairement abondant avec des taux d'intérêt très très bas. Et donc il y a une combinaison où finalement le capitaliste, j'emploie des termes un peu anciens, le capitaliste arrive avec un capital gratuit et où le capital intellectuel qui est propre aux salariés, lui, est la matière rare. Olivier Gauthier a étudié ça plus subtilement. C'est en fait Manchester, Karl Marx renversé. Hein. C'est le capitaliste qui a les moyens de mettre en œuvre le processus de production, le salarié qui n'a que sa force de travail non qualifiée à vendre et dont le salaire, c'est le salaire de subsistance et toute la valeur ajoutée est captée par le détenteur des moyens de production. Donc on renverse ce modèle. Ceci doit s'appliquer. Alors, c'est un peu vrai. C'est vrai dans certains secteurs, c'est vrai dans la banque, d'autant qu'il y a deux choses que je veux pointer sur cette deuxième classe d'explication, c'est le fait que la finance, paradoxe, n'est pas un domaine brevetable. C'est-à-dire, au fond, un truc de trading, un produit financier, c'est du domaine des idées, et des idées non protégées, même si des banques ont essayé de protéger des nouveaux produits financiers, mais enfin, ça se copie facilement, vous faites venir un bon statisticien, il vous réplique le produit en un tournemain. Comparez ça typiquement à la pharmacie, vous avez l'ingénieur, le chercheur génial qui trouve la molécule, bah oui, mais la molécule, elle est protégée, et c'est l'entreprise, le Sanofi, le Novartis et autres, qui est propriétaire de la molécule. Et donc le salarié, certes, il a créé la molécule, elle va peut-être rapporter $1 milliard de revenus annuels, sauf que ce n'est pas lui qui est propriétaire de la rente. Donc c'est probablement un effet d'explication. Là, je m'avance sur les terres de Diane Segalen. Dans cette deuxième, c'est vrai que vous avez des phénomènes de collusion, de close shop, comme on dit, dans le monde du travail de la banque. Typiquement, vous ne pouvez pas concurrencer un trader en vous amenant, vous avez 30 ans, vous avez votre expérience professionnelle, vous venez, bon, non, Il y a des filières de recrutement, certaines écoles. L'affaire Kerviel est intéressante parce que c'était justement quelqu'un qui était un trader, mais pas du rang, vous voyez, pas avec le tampon, le pas cachère. Il était bon, et donc il était décalé par rapport à ce monde qui vit assez en cercle fermé, auquel s'ajoute un paquet de conflits d'intérêts au sein de la banque, puisque le chef de salle adore que ses collaborateurs soient très très bien payés, puisque lui il va forcément être bien payé encore plus. Et ça remonte jusqu'au sommet. Il faut vraiment monter au PDG pour que le PDG admette dans les banques d'être un peu moins payé que les traders vedettes, mais quand même il est copieusement payé. Donc on a un système où au fond tout le management est dans un système qui favorise la captation de la rente liée au capital intellectuel des traders au profit des salariés. Dernière classe d'explication, c'est que le marché fonctionne mal. Mais alors, le marché fonctionne mal au sens où, si on arrive à bien payer les salariés des banques, si les banques quand même se payent très bien, je prenais l'exemple de Goldman Sachs, post-crise, un retour sur fonds propres de 24%, c'est pas mal. Et ils ont fait une sacrée augmentation de capital pour être en ligne avec les nouvelles règles en matière de capitalisation des banques. Donc ils ont gonflé le dénominateur, ça veut dire que le top line, le revenu net reste bien copieux. Ça, c'est avant les rémunérations des salariés. Si on ajoute, je prends 40% de la rémunération des salariés, eh bien, du coup, ça fait passer le ROI, le return on equity, le rendement des fonds propres, aux alentours de 35-38%. Bon, certes, Goldman Sachs, c'est la star, mais vous trouvez des chiffres tout à fait analogues du côté des banques. Autrement dit, peut-être que les actionnaires se font piquer de l'argent par leurs salariés, mais ils s'en sortent pas mal quand même, collectivement. Il y a bien quelqu'un qui paye ses rémunérations des actionnaires et des salariés, et c'est forcément le secteur non financier qui les paye, entreprises et particuliers. Quand vous achetez des produits d'épargne, vous avez de l'épargne par la retraite par répartition, c'est les caisses de sécurité sociale qui gèrent ça, on peut en dire tout le mal qu'on veut, mais enfin, c'est des salaires. Si c'est géré par le voie des marchés financiers, il y a au passage des traders qui sont dans les rémunérations qu'on a citées et qui se font là. Autrement dit, mais c'est là où les économistes sont un petit peu embarrassés, c'est que pour analyser ces phénomènes de distorsion de marché, c'est pas simplement de dire, il y a collusion. Hein. Le secteur est d'ailleurs assez concurrentiel. Il faut analyser à la fois la relation salarié, management, actionnaire et client. Hein. Donc c'est bien cet ensemble-là qu'il faut collectivement analyser. Et ça, c'est un peu casse-tête, et les économistes sont gênés pour analyser ces cas de distorsion très très subtil de concurrence. Je prends des exemples. Beaucoup de métiers de la banque sont des métiers de commission. Hein, les fusions-acquisitions M&A, vous vendez une boîte de 50 millions d'euros, ça fait 2% de commission. Bien. C'est, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est carrément des tarifs syndicaux. Hein, par petits clubs, ils s'entendent, on ne déroge pas à la règle. Un peu comme les agents immobiliers, d'ailleurs, hein, c'est 5%. Le marché immobilier a doublé en 10 ans. Tant pis, vous payez toujours 5%, le service est le même, vous notez ça. Donc quand on est sur des commissions, les fonctionnements de marché sont assez différents. Je reprends mon exemple du M&A 2% de com. Le vendeur est très heureux d'avoir payé sa commission de 2%, puisqu'il va dire, on lui dira en tout cas, que grâce à ces 2%, il a obtenu 10% de prix en plus grâce au talent de négociation. Donc il est gagnant de 8%. Oui, mais il y a également un agent M&A qui défend l'acheteur et qui va lui dire, vous avez certainement gagné 10% sur le prix, mais vous me devez 2%. Autrement dit, ça fait 2 et 2, 4% sur 50 millions d'euros, ça fait quand même 2 millions d'euros. Vous pouvez payer 14 années d'un cadre sup payé, tout compris, à 150 000 euros. Et ça n'apparaît d'ailleurs pas, c'est une des caractéristiques de ce marché particulier, ça n'apparaît nulle part. Ou du moins, ça n'apparaissait nulle part avant que les systèmes comptables disent « Bon, quand même, les 4 millions d'euros, vous notez que le 4 millions d'euros, le 2 millions d'euros, pardon, le 4% sur le 50, 2 millions d'euros, ça ne crée pas beaucoup de valeur sociale. Hein. C'est simplement une distribution d'une poche à une autre entre acheteurs et vendeurs. Bon. Ce 2 millions d'euros, il disparaissait des bilans. Hein. C'était capitalisé, ça allait au bilan, c'était de l'amortissement. Les nouvelles normes comptables ont imposé que ces éléments-là, qui sont notoirement des éléments de service, rentrent dans le compte d'exploitation des entreprises. Le directeur financier, dont j'étais dans le passé, évidemment, beuglait. Comment, du coup, je fais une acquisition, ça va perturber mon profit. 1 million d'euros pour une PME, c'est vrai que ça se voit dans le bas de compte. Ben oui, mais si vous n'avez pas la douloureuse sur la table, vous n'êtes pas capable de vous réaliser que vous payez très très cher ce service. Peut-être service très utile, mais très très cher. Autrement dit, je vais pas m'étendre, mais le phénomène des commissions est un phénomène qui, au fond, masque la réalité des services. On pourrait très bien dire, par exemple, que des opérations de trading pour une entreprise consistant à se couvrir sur le dollar, eh bien, c'est une opération financière, j'achète ou je vends du dollar à terme, mais là-dedans, il y a une commission de la banque, qui est l'écart entre le prix acheteur et le prix vendeur du dollar. Mais si c'est une commission de la banque, quelque part, c'est que c'est un service. Et pourquoi ce service, ce n'est pas comptabilisé dans mon compte d'exploitation comme un service ? Si on révélait l'ensemble de ces commissions, vous verriez immédiatement, c'est le jeu de la transparence, que ces coûts seraient révélés et la concurrence serait mieux à même de jouer. Bon, je ne vais pas voir tous les phénomènes, concurrence faussée, l'opacité notamment. Je mets juste le doigt sur un phénomène particulier dans le domaine de la banque qui est, et je parle comme assureur, qui est que c'est souvent des contrats complexes, avec innovation, etc. Contrat complexe dit qu'il faut conseiller l'entreprise sur ces contrats complexes. Et très souvent, c'est assez dur de faire la comparaison pour vos mêmes offres. Vous voulez une offre de gestion de trésorerie, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir un prix standard étagère du produit. Bon, comme le prix d'une Clio de chez Renault, un produit compliqué. Quand il y a produits compliqués, il y a souvent des agents intermédiaires qui sont là pour aider les entreprises. C'est vrai pour la chasse de tête, c'est vrai pour l'assurance avec les agences d'assurance. Les banques ont réussi cette prouesse de garder ce contact direct avec leurs clients de façon à, au fond, empêcher qu'il y ait l'apparition typiquement du courtage. Il n'y a pas de courtage en matière bancaire, alors qu'en assurance, il y a des courtiers. Et les courtiers jouent ce rôle concurrentiel. J'en finis là.
Ça va ?
Merci François Meunier. Merci d'avoir introduit le client nous-mêmes dans cette conversation. Hein. Olivier Gottschaux répondra évidemment tout à l'heure à l'interpellation que vous avez faite tout à l'heure. Diane Segalen, c'est à vous. Je rappelle que vous êtes chasseur de tête, donc. Hein, vous dirigez City Partners.
C'est moi qui vis avec les banquiers toute la journée. Je suis celle parmi vous qui voit des banquiers, des traders.
Eh ben, je vous en prie, racontez-nous, qui sont-ils ?
Donc,
combien gagnent-ils ?
Je suis là aussi pour un peu rétablir, à mon avis, quelque chose qui est très pertinent. Les rémunérations complètement exceptionnelles et qui peuvent paraître choquantes ne concernent qu'un tout petit nombre de traders. Dans le trading, ce qu'on appelle trader, c'est un commerçant qui achète et qui vend sur des marchés, soit des produits de change, ça peut être de l'or, ça peut être des actions, ça peut être des produits financiers plus ou moins compliqués. Et dans les banques, la plupart des traders le font pour le compte de clients, ce qu'on appelle les traders pour compte de tiers. Et les traders pour compte de tiers travaillent avec un niveau de risque qui est très normé normalement, donc sauf Kerviel et sauf fraude en l'occurrence. Et ce sont des gens qui, en moyenne, gagnent, pour quelqu'un de confirmé, des niveaux de salaire qui peuvent aller jusqu'à 100, 120 000 euros en fixe, et des niveaux de bonus qui vont jusqu'à, on va dire, 100% pour certains très exceptionnellement bons, qui peuvent aller jusqu'à 200%, mais on est dans des enveloppes de rémunération autour de 300 000 euros. Ce qui, certes, sont des rémunérations très importantes, hein, mais ce sont des rémunérations qui sont liées au profit qu'ils font faire aux clients et qu'ils génèrent pour la banque sous forme de commission ou sous forme de gains en capitaux. Donc ça, c'est l'essentiel des traders. Et ensuite, il y a les traders pour compte propre. qui sont des gens qui travaillent effectivement dans des cellules qui sont beaucoup plus opaques, qui travaillent avec les fonds propres de la banque, puisque la banque s'est rendue compte que sur les fonds propres, elle pouvait jouer sur les marchés et elle pouvait tirer des profits extrêmement importants. Et ce qui est choquant, effectivement, c'est de voir que des gens qui n'ont pas pris de risque en capital, puisque eux sont effectivement des salariés, ils n'ont pris aucun risque, c'est-à-dire ils gagnent, ils ont une participation de la création de richesses qu'ils ont fait avec l'argent de la banque. Mais ils perdent, ils rentrent chez eux, au pire ils sont virés. Donc il y a un élément qui est un élément réellement choquant qui tient à cette absence de prise de risque et à ce partage de la plus-value qui est créé et qui effectivement, dans des cas, alors ça se compte plus en dizaines qu'en centaines en France, qui ont abouti à faire que des opérateurs de marché qui étaient des gens qui étaient juste des commerçants, on va dire, qui n'avaient pas pris de risque personnel parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs, aboutissaient à avoir des rémunérations extrêmement élevées. Donc, ce phénomène, et j'ai une bonne nouvelle pour M. Mérieux, qu'aujourd'hui, c'est absolument rentré dans les mœurs à la fois le fait que les rémunérations sont différées dans la durée, donc ça a été immédiatement rentré dans les mœurs, et c'était déjà en partie le cas, alors souvent pour des parties qui représentaient 20 à 30% des rémunérations, mais maintenant il y a une double échelle qui à la fois concerne les salaires les plus importants, c'est-à-dire au-delà de 1 million de rémunérations, on a 60 à 80% des rémunérations qui sont différées dans le temps. Et puis, donc c'est à la fois en termes de montant, il y a une progressivité pour les salaires plus faibles, la partie qui est différente dans le temps existe, mais elle est plus faible. Et alors, je pense que c'est un problème de droit social plus qu'un problème d'équité. La problématique de faire en sorte que si un trader en année N plus 1 ou année N plus 2 n'est pas performant et aboutit à faire des pertes pour la banque, on puisse lui retirer de l'argent qu'on lui devait au tir d'une année précédente qui est considérée comme un salaire ou un bonus, c'est de la pénalité, c'est de la pénalité. Je crois qu'en droit français, on n'a pas le droit de faire des pénalités financières. Si par exemple un conducteur de camion écrase quelqu'un, on ne va pas lui faire une pénalité. Il y a l'assurance qui paye. Donc ça, je pense qu'il y a la problématique de droit social autour de ces problèmes de notion de profit and loss autour de l'activité d'un trader. Donc, je crois encore une fois qu'il y a eu des évolutions très nettes qui ont été immédiatement mises en œuvre par les banques françaises, qui sont plutôt des bons élèves en la matière. Ce qu'il faut voir, c'est pas se mettre le doigt dans l'œil. Les traders sont toujours aussi bien payés. Les traders maintenant ne sont plus à Paris. Il n'y a plus de marché de fixed income à Paris. Il n'y a plus de marché d'actions à Paris. Il n'y a plus le marché des commodities. C'est largement délocalisé sur Genève ou sur les places aux États-Unis comme Chicago. On est en concurrence principalement avec l'Asie où la notion de régulation est totalement inexistante. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les traders pour compte propre des grandes banques, et là je parle des Goldman Sachs, Morgan Stanley, qui sont des gens qui gagnent plusieurs centaines de millions par an, créent des sociétés de gestion, donc ne sont plus des employés de la banque, et la banque leur confie la gestion de leurs fonds propres. Donc il y a un détournement des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir continuer à, pour les banques, je crois, optimiser leur bilan et gagner encore plus d'argent avec l'argent qu'ils ont. Donc ça, c'est, il faut, les banquiers sont très créatifs, ils arrivent à détourner la régulation. Vous avez également mis un point intéressant sur le fait que la partie fixe des rémunérations avait beaucoup augmenté. C'était au départ une volonté du régulateur que la partie variable soit mieux équilibrée par rapport à la partie fixe. Ça a bénéficié à l'ensemble de la population bancaire qui a eu une très forte augmentation des fixes. Donc les rémunérations globales ont plutôt eu tendance à baisser depuis très certainement 2008, 2009 aussi dans la plupart des métiers, et 2010, on s'attend à un petit, léger mieux, mais on ne s'attend pas globalement à une très nette amélioration. Néanmoins, la répartition entre les salaires fixes, qui étaient relativement limités, c'est-à-dire qui pouvaient représenter jusqu'à un tiers, voire 50, 60, 70% de la rémunération, aujourd'hui a eu tendance à être rééquilibrée. Donc, il y a un très fort grossissement de la masse salariale hors bonus des établissements financiers. Donc les traders peuvent remercier le législateur aussi à cette occasion, puisque pour certains, ils ont eu des fixes qui ont augmenté de plus de 50% sans qu'ils l'aient demandé. Donc, encore une fois, les opérateurs de marché ne sont pas tous des voleurs. Ils travaillent dans des conditions relativement bien normées, c'est-à-dire qu'ils ont un portefeuille qui doit faire fructifier et ils savent effectivement jour après jour combien ils ont rapporté à la banque et quel est le pourcentage a priori qui devrait leur redescendre en termes de bonus en fin d'année. Mais la plupart travaillent avec des rémunérations importantes, mais ne travaillent pas dans des rémunérations qu'on pourrait considérer comme excessives. Et puis, je me permets, parce qu'il y a quand même quelques femmes dans l'assistance, les traders femmes sont encore moins bien payées que les traders hommes. Donc, on note quand même que même dans ces métiers-là, qui sont des métiers d'argent, il y a encore une distorsion à ce niveau. Et encore une fois, je pense que d'être trop vertueux, que les banques françaises soient si vertueuses en matière de rémunération, aboutit à les rendre moins compétitives. C'est-à-dire que les meilleurs traders, donc les Pavarotti et les Thierry Henry, ben ils ne jouent plus au football en France, ils vont jouer au football dans des endroits où ils peuvent optimiser leur rémunération.
Voilà une pierre dans le jardin du régulateur.
C'est pas une pierre. J'ai observé qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient suivis, notamment sur la gouvernance en matière d'élaboration des bonus.
Oui, je suis sensible à ce que vous dites. Je crois que les banques françaises ont quand même, naturellement, sont soumises aux pressions concurrentielles comme les autres banques. Hein, et donc, en arrière-plan de tous ces exercices de contrôle des rémunérations, il y a la pression du marché qui est là, hein, et aucune banque ne peut, même quand elle fait des résultats médiocres, ne peut totalement s'en exonérer. Et donc on voit bien que tout ça donne pas mal de place à l'interprétation, parce qu'une banque qui ne paierait plus du tout ses équipes devrait arrêter son activité. Donc on voit bien que derrière ces bonus, il y a une réalité très forte qui est celle d'un marché, et on ne peut effectivement pas s'en abstraire. Je suis un tout petit peu moins pessimiste que vous. Moi, j'ai vu encore quand même dans notre contrôle des traders basés en France et encore beaucoup d'équipes à l'étranger de banques françaises très performantes. Et je crois que les résultats des banques françaises témoignent qu'elles ne sont pas si hors marché que ça, notamment dans leur secteur d'excellence.
Attention, vous avez failli répondre à la question à laquelle vous n'avez pas voulu répondre tout à l'heure, nous donner des éléments chiffrés. Non, merci, non. Diane Segalen.
Pas de danger.
C'est la parole, on prend du retard évidemment, donc le débat reprendra.